aussi je remercie le comité d'organisation de ce colloque pour avoir accepté, ou pour m'avoir demandé en fait, alors que je suis totalement incompétent dans le domaine du travail, je suis sans doute la seule personne incompétente dans cet amphithéâtre, de vous présenter quelques idées et quelques questions récentes que peuvent se poser un physiologiste sur le sujet de notre session. Et je partirai d'un constat et d'un paradoxe. Le constat est, comme nous l'avons entendu, le maintien simultané des formes classiques du travail, voir les chantiers de travaux publics en France, le démontage des navires, etc. L'apparition de nouvelles formes de travail, comme le e-travail, dont nous avons entendu parler hier sous le titre de e-learning, l'utilisation de la réalité virtuelle, dont je dirai un mot tout à l'heure, et sur le plan de la santé, au fond, deux effets. Le maintien des pathologies traditionnelles, qu'il ne faut pas négliger et oublier, et l'apparition de pathologies nouvelles, dont l'origine est mal comprise, et on a mentionné déjà hier le cancer professionnel, les troubles musculo-squelettiques, dont nous pourrions discuter pour savoir s'ils ne sont pas en réalité d'origine cognitive ou sociale, et les troubles psychosociaux, le stress, etc. Le paradoxe, c'est que face à cette évolution du travail et des pathologies, nous avons assisté depuis une quinzaine d'années à une fermeture au CNRS en particulier, que je connais bien puisque j'y ai passé l'essentiel de ma vie de chercheur, de nombreux laboratoires consacrés au travail. Le Centre bioclimatique de Strasbourg, qui avait été créé par Bernard Metz, des labos de physio du travail, de psychologie sociale, etc. Donc c'est un paradoxe de voir qu'un certain nombre de ces laboratoires ont fermé ou ont disparu peu à peu, en même temps que se créait ce champ immense et nouveau, qui contraste d'ailleurs avec l'abondance de nouvelles connaissances en biologie, en médecine, en sciences de la cognition, en neurosciences, en coopération avec les STIC, SHS, etc., et qui permettent ou qui devraient permettre de redéfinir vraisemblablement ces disciplines traditionnelles de l'étude du travail. Il faut donc ouvrir de nouveaux chantiers, pluri, inter, multidisciplinaires, et c'est cela que je voudrais évoquer avec vous sur deux exemples. Le premier exemple de chantier est le problème de la décision. Une crise majeure des modèles de la prise de décision est apparue. L'homme n'est pas un décideur rationnel. Il faut revoir les approches normatives de la décision et remettre, comme on l'a déjà dit depuis hier, avec insistance, remettre la personne au centre. Et c'est Daniel Kahneman, il y a 30 ans, qui a été un des premiers psychologues à remettre ces modèles normatifs de la décision en cause. Et c'est tout à fait remarquable que les économistes, ou plutôt qu'il ait eu le prix Nobel d'économie, alors qu'il était un psychologue, précisément pour cela, il y a quelques années, plusieurs années avant que n'éclate la crise financière, qui démontre aujourd'hui à quel point ces modèles formels de décision étaient inutilisés ou inutilisables, ou en tout cas étaient loin de ce qu'est la réalité de l'homme ou de la femme ou des personnes ou des sociétés qui décident. Cette crise importante nous exige à revoir complètement, vraisemblablement, les théories de la décision. Et le bouquin que j'ai fait il y a quelques années maintenant m'a donné l'occasion de raconter des données de physiologie devant un très grand nombre d'entrepreneurs, de décideurs, et de m'apercevoir à quel point réellement il y a maintenant un questionnement, y compris des managers, sur cette refondation des théories de la décision. La décision est prise par une coopération entre le cerveau cognitif, le cerveau des émotions, de l'affect, des sentiments dont parlait Yves Clos ce matin, des sentiments, le cerveau social, etc. Il faut refonder une théorie de la décision à partir de ces connaissances nouvelles qui vont exiger de décloisonner les disciplines et de retrouver en particulier le problème de la coopération entre le cerveau des émotions et le cerveau de la décision, ce cerveau des émotions et tout le cerveau cognitif. Voilà un des défis qui se pose à nous actuellement. Alors, comme je suis un physiologiste, il faut que je vous montre des images de cerveau. Vous n'en avez pas vu beaucoup depuis hier, mais vous ne pouvez pas échapper à voir quelques images de cerveau. Je vais essayer d'être simple. Les images de physiologie sont toujours très complexes parce que le cerveau est compliqué. Mais on peut quand même résumer le fait qu'aujourd'hui, de très grands progrès ont été faits grâce à des coopérations interdisciplinaires sur les bases neurales de la décision. On sait que lorsqu'on examine une scène visuelle, par exemple, les données sont traitées dans deux grandes voies. une voix dorsale qui dit où sont les choses dans l'espace, qui les met dans leur contexte, une voie dorsale vers le cortex temporal qui va identifier les visages, les objets, et ces informations vont converger vers le cortex préfrontal où seront prises des décisions. Ça, c'est le cerveau cognitif, mais ce cerveau cognitif travaille avec aussi un cerveau des émotions, et les mêmes informations, par exemple visuelles, sont adressées aussi à des structures sous-corticales, comme l'amygdale, qui est une structure fondamentale, car c'est elle qui attribue de la valeur aux choses, aux objets, aux événements que nous rencontrons. Et elle travaille avec une structure, le cortex orbitofrontal, situé ici, sous l'orbite, qui, lui, permet éventuellement de changer d'opinion sur ces jugements de valeur très rapides, automatiques, qui permettent de réagir, qui sont élaborés par l'amygdale. Et ensuite, d'aller contribuer, avec le cerveau cognitif, à l'élaboration de décisions sur la base d'une combinaison des aspects cognitifs et des aspects émotifs. Et tout ceci, bien sûr, ces mécanismes corticaux, avec la contribution de mécanismes sous-corticaux, comme ceux des ganglions de la base, qui sont des parties du cerveau qui sont impliquées dans la sélection de l'action, et des mécanismes neurochimiques extraordinairement importants de neuromodulation, qui sont ceux sous-tendus par la dopamine, l'acétylcholine, etc., tous les mécanismes neuromodulateurs. Donc un immense champ de recherche aujourd'hui, mais dans lequel, peu à peu, les connaissances avancent. Et voici un modèle, par exemple, élaboré par Étienne Coquelin, qui est à l'École normale, qui est un polytechnicien économiste devenu neuroscientiste. Ces hybrides qui, aujourd'hui, font avancer notre domaine. Et Étienne Coquelin, qui s'intéresse à la décision dans le cadre frontal et préfrontal, a proposé l'idée qu'il y a en fait trois grandes composantes d'une décision. Une composante qui, lorsque, par exemple, je vais manger ou je cherche à manger une pomme, est une composante de motivation qui serait gérée dans des structures ici, je veux une pomme. Une composante de sélection dans le cortex préfrontal cognitif ici, je choisis la pomme. Et puis une composante d'émotion, de préférence, dans le cortex limbique, ici, amygdale, orbitofrontal, je préfère la pomme. Donc une théorie qui essaye de réfléchir sur ces différentes composantes de la décision, et avec, bien sûr, des modélisations mathématiques et des travaux avec les psychologues, neuropsychologues et psychiatres. Et ça n'est pas étonnant si on trouve ces régions, ici, du fond du cortex, des émotions, activées dans des jeux même financiers. Et ça, c'est une des premières manips qui a été faite par Daniel Kahneman lui-même, en 2001, lorsque tout ce champ a commencé à exploser, avec des spécialistes des neurosciences, et vous voyez, dans un jeu de roulette, vous savez, de la roue de la chance, et dans ce jeu de la roue de la chance, où on doit nommer un chiffre, eh bien, ils ont montré qu'effectivement, dans ces décisions prises pour une tâche de décision de gain financier, pour la roue de la chance, il y avait toutes ces zones du cortex, du cerveau, des émotions, qui étaient activées en particulier. Et cette partie du cerveau, qui est cette partie orbitofrontale ici, si importante, comme jonction en quelque sorte de l'affect avec la cognition, a été aussi étudiée, il faut le citer, par Antonio Damasio. Vous avez tous peut-être lu son livre « L'erreur de Descartes » et les autres livres qu'il a fait. Et la théorie de Damasio dit que le cerveau cognitif va analyser les faits, les options de décision, les représentations des conséquences futures, élaborer des stratégies de raisonnement. Tout ceci dans le cerveau cognitif, mais que le cerveau des émotions va aller marquer, d'où la dénomination de théorie des marqueurs somatiques, va marquer l'élaboration de ces décisions dans le cortex cognitif par des impressions, des vécus émotionnels. Et l'originalité de Damasio est d'avoir réintégré le corps sensible, comme l'avait fait William James il y a longtemps, car James, rappelez-vous, disait « Je ne fuis pas parce que j'ai peur, mais j'ai peur parce que je fuis. » C'est le corps en acte, le corps sensible, qui va aller marquer les sentiments, et d'où la dénomination de la théorie de Damasio. C'est la réviviscence de ces impressions sensibles, végétatives, etc., qui va marquer le cerveau cognitif. Et il s'agit donc bien d'une réintégration du corps vécu dans toute sa profondeur et son vécu, dans ces questions-là. Alors on trouve ces structures, comme le cortex orbitofrontal, dans des expériences de gain ou de perte d'argent, voire les travaux de Rawls, par exemple. Il y en a beaucoup d'autres qui ont été faites depuis. Et on trouve aussi activée une autre structure intéressante qui n'est plus ce cortex préfrontal cognitif ici, ni cette partie du cortex orbitofrontal, mais une partie un peu plus profonde qui s'appelle le cortex singulaire antérieur, et où l'on distingue une partie affective, une partie cognitive qui sont jointes, et qui est activée en particulier lorsque les opérateurs ou les gens prennent de hauts risques. Et ce qui est intéressant, c'est ce cortex singulaire antérieur. Nous pensons actuellement qu'il évalue en particulier la différence entre le résultat obtenu et le résultat espéré. C'est une espèce de monitoring, en quelque sorte, des différences entre les attentes et ce que l'on a. Et ça n'est pas étonnant si on trouve des déficits ou des hyperactivités dans cette partie du cerveau, dans un certain nombre de pathologies psychiatriques en particulier, qui sont liées à la dépression, à des déceptions éventuellement, etc. Donc il y a là toute une nouvelle neuroscience sur laquelle je n'ai pas le temps de m'attarder, qui va donner éventuellement un nouveau dialogue entre les différentes communautés impliquées dans ces processus de décision et donc vraisemblablement dans différentes dimensions de l'étude du travail. Mais comme me l'a rappelé M. Didier Nau, ici présent, il y a quelque temps, le cerveau ne prend pas des décisions tout seul et il prend des décisions collectives. Et la question est aujourd'hui de savoir où nous en sommes concernant le cerveau social. Est-ce que les neurosciences peuvent apporter aujourd'hui quelque chose à ce qui est si important qu'est la décision du cerveau social? Eh bien, on sait encore peu de choses, mais les connaissances avancent très vite. Il y a d'abord une très grande découverte qui a été faite par Rizzolatti, il y a quelques années. Si je fais ce geste, par exemple, joyeux, eh bien, dans votre cerveau s'allument, dans votre cortex prémoteur, les mêmes neurones que ceux qui seraient activés si vous faisiez ce geste. Autrement dit, il y a un système ici qui code non pas le mouvement que je fais, mais l'action dans sa généralité, l'action partagée. Si je fais comme ceci, eh bien, vous avez des neurones qui s'allument dans votre cerveau et qui font comme ça. Et si au contraire, voilà. Cette découverte est une des plus grandes découvertes des neurosciences cognitives modernes. Elle est utilisée dans beaucoup de domaines, y compris en philo actuellement, peut-être un peu trop pour son utilisation, mais elle est fondamentale. Et ça n'est pas seulement dans cet cortex prémoteur qu'existent ces neurones, c'est un réseau qui implique au moins trois grandes structures dans le cortex pariétal, le sillon temporal supérieur, qui s'appelle donc le système miroir, qui est le système de la réaction, de la contagion motrice, de l'interaction profonde et rapide entre autrui et soi, lorsque nous interagissons avec autrui. Mais il y a maintenant tout un nouveau domaine aussi qui est en train de se développer. Par exemple, nous sommes impliqués actuellement dans un projet européen avec Jules Grèze, avec Béatrice de Gelder, avec des mathématiciens, sur la perception de l'expression corporelle. Vous savez que dans beaucoup de domaines du travail, il y a toute une communication non verbale, par les gestes, etc. Et il y a maintenant une neuroscience de cette communication et de cette perception et de la production, puisque perception et production utilisent pour une part les mêmes mécanismes de l'expression corporelle des émotions. On identifie maintenant, par exemple, les structures qui sont impliquées dans la perception de la peur lorsqu'on montre des films ou des images statiques de gens qui expriment des émotions. Et voici une très jolie image de Béatrice de Gelder, publiée dans Nature, qui montre les trois réseaux importants sur l'expression corporelle des émotions, des réseaux très automatiques, des réseaux plus conceptuel, plus conscient, et puis on retrouve ici le réseau des neurones miroirs. Donc on trouve maintenant, on peut identifier ces différents réseaux avec évidemment des implications en psychiatrie, en neurologie et dans nos interactions futures peut-être avec les médecins du travail. Il y a aussi des données intéressantes sur la perception de la douleur d'autrui. Si on montre à des gens une main en train de se pincer, j'imagine que vous avez mal en ce moment au doigt, ou quelqu'un en train de se couper le doigt en coupant un concombre, eh bien, on a découvert que ces situations de perception de la douleur d'autrui active des réseaux particuliers dans lesquels on trouve ces réseaux miroirs, mais on trouve aussi d'autres structures très particulières à la perception de la douleur d'autrui. Et ce qui est très nouveau aujourd'hui, c'est l'apparition de tentatives, d'ailleurs de résultats très intéressants, sur un autre sujet dont nous avons entendu parler depuis hier, qui est le respect des normes sociales. C'est un nouveau domaine des neurosciences cognitives. Par exemple, des travaux sur la capacité de détecter si autrui est honnête ou vous trompe, qui est une composante fondamentale de la vie sociale, et des données apparaissent sur les réseaux impliqués dans le cerveau. Et on a ainsi des données qui viennent des équipes de neurosciences cognitives et de psychiatrie sur ces réseaux cérébraux liés au respect des normes sociales. Donc vous voyez, des progrès encore en cours, mais intéressants dans ce domaine. Il y a aussi de nouveaux paradigmes sur le travail coopératif. Par exemple, Knoblich, Sebans, Maguire, qui commencent à étudier le travail partagé entre deux personnes avec des paradigmes intéressants dans lesquels deux personnes, non plus une seule personne, mais deux personnes sont dans une situation de travail. Et puis, des tentatives sur l'ostracisme. Et là, je citerai simplement un résultat tout à fait étonnant, mais qui pourrait intéresser certains des médecins du travail ici. L'exclusion sociale active dans le cerveau les mêmes structures que celles de la douleur physique. C'est-à-dire, lorsqu'on montre à quelqu'un quelqu'un qui a une douleur physique, eh bien, ou qui l'a mal, ça active un certain nombre de structures. Eh bien, l'exclusion sociale, ça fait mal, au sens vrai du mot, avec toutes les conséquences possibles. Et on a maintenant des paradigmes pour étudier ces questions-là. Alors, je voudrais donner un deuxième et dernier exemple de ces avancées sur un deuxième chantier qui est la réalité virtuelle. Pourquoi la réalité virtuelle ? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, comme on le sait, dans l'industrie, la réalité virtuelle est devenue un outil majeur. Il y a, je dois à Guillaume Thibault et à l'EDF de m'avoir donné cette image. L'EDF a montré qu'il y a des enjeux en maintenance industrielle, par exemple pour réduire la durée des arrêts de production des centrales, mener des interventions de maintenance, etc. On utilise la simulation virtuelle pour simuler des conditions très difficiles, comme par exemple dans la grande panne EDF d'il y a 2-3 ans, ou quelques années, le remplacement d'un stator géant qui ne pouvait passer qu'à quelques centimètres près a été entièrement fait par un travail collectif d'experts multiples qui a simulé entièrement, grâce à la réalité virtuelle, le passage de ce stator qui a permis de redonner aux usagers l'électricité très rapidement. Et on utilise aujourd'hui la réalité virtuelle, bien sûr, pour la formation professionnelle, des murs d'images qui se développent de façon très rapide, avec des gens qui sont à plusieurs, en train de travailler collectivement devant un mur d'images virtuelles, y compris avec des personnes très loin. Et ces dispositifs vont être de plus en plus utilisés aussi à distance. D'où l'aspect, aussi un chantier nouveau, interculturel, de la présentation de l'information. Et je rappelle ce grand objectif d'Alain Wiessner, dans les dernières années de sa vie, qui était de créer une anthropotechnologie. La réalité virtuelle, le problème, c'est qu'elle exige la manipulation mentale des espaces, des points de vue. On peut aussi l'utiliser pour étudier les bases neurales des changements de point de vue, aussi comme diagnostic des déficits pathologiques, et même pour la réhabilitation ou la rémédiation. On l'utilise, par exemple, pour l'agoraphobie, et on peut l'utiliser pour étudier les stratégies cognitives, la façon dont chacun d'entre nous traite ces questions de façon très différente. Voici un exemple d'un paradigme de réalité virtuelle, de navigation dans une ville virtuelle utilisée dans les laboratoires. Et voici un exemple tout à fait caractéristique du fait que si je vous demande, par exemple, de résoudre un problème spatial, mais vous pouvez y réfléchir peut-être plus facilement si je vous demande de vous rappeler le chemin que vous avez fait de l'entrée du collège jusqu'ici, vous pouvez le faire soit en vous rappelant vos mouvements, soit en ayant une carte du collège. Eh bien, ces deux stratégies cognitives qui ont été appelées hier vue d'avion ou vue du sol, n'activent pas les mêmes structures du cerveau. Nous ne traitons pas les problèmes de l'espace de la même façon, et la réalité virtuelle demande une virtuosité mentale de changement de référentiel, et elle permet de faire ces changements de référentiel très rapidement, et tout le monde ne peut pas avoir cette agilité. Il faut tenir compte des variations individuelles. La manipulation mentale de l'espace et des relations avec autrui varie en fonction de l'âge, du sexe Il y a de très grandes études maintenant sur les différences entre les hommes et les femmes dans ces manipulations, de l'expérience et de la culture. Il faut recréer une psychologie, une neuroscience cognitive différentielle. C'est un des grands défis qui s'adresse à nous. Et enfin, la réalité virtuelle pose donc de nombreux problèmes. En particulier, elle modifie le flux naturel du temps. Elle peut donc modifier profondément le soi. Elle multiplie les lieux au sens abstrait de travail, et elle multiplie les changements rapides d'identité. Cette image est due à Madame Piolino, qui, dans un livre fort intéressant avec Eustache, a résumé les composantes de l'identité et du soi, dans lesquelles la mémoire épisodique, la conscience, le voyage mental dans le temps, les souvenirs, le sentiment de continuité, et la mémoire sémantique, c'est-à-dire les sentiments d'identité, sont deux composantes importantes de contribution à la construction de soi. Eh bien, aujourd'hui, en particulier à cause de la réalité virtuelle, mais aussi de tous les moyens nouveaux de communication, on assiste à une multiplication extraordinaire du nombre d'identités, avec non seulement les jeux de rôle, les identités virtuelles, les flux migratoires, la mobilité géographique, mais aussi tous les problèmes de manipulation de ces différentes identités qui vont défier ce qui est classiquement le mécanisme de construction d'un soi stable, qui est la mise en correspondance du passé avec l'anticipation du futur. Et il y a aussi là, et c'est ça qui est intéressant, un champ nouveau, complètement nouveau, de neurosciences cognitives et de coopération avec les psychiatres sur cette question de l'identité. Et le risque, évidemment, est de passer de ce soi unique, cohérent, voici un modèle de Gallagher, qui nous permet une certaine stabilité dans l'environnement, à un autre soi qui correspond d'ailleurs à la multiplicité des structures dans le cerveau qui contribuent au soi, à un soi éclaté dans lequel nous n'arrivons plus à reconstruire un soi unique, ce qui peut avoir des conséquences non seulement psychiatriques, mais peut-être aussi même sur le fonctionnement de notre corps et peut-être même des soi-disant pathologies musculo-squelettiques. Merci beaucoup.